Alors, bienvenue à tous ceux que j'ai pas pu saluer encore. Je suis très heureux de vous accueillir ici aussi dans l'église. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre du prophète Agée. Donc, si on n'est pas trop familier avec la Bible, un des repères pour trouver Agée, c'est d'aller au Nouveau Testament et puis on remonte de 3 livres en arrière. Donc, normalement, vous avez Malachie avant. Avant Malachie, vous avez Zacharie. Et troisième livre sur lequel vous tombez quand vous allez à rebours, c'est Agée. C'est un des petits prophètes que Dieu a envoyé au peuple d'Israël. Donc, après le retour de l'exil, ils sont partis en Babylonie, pendant 70 années. Les voilà maintenant retournés dans le territoire d'Israël. Et Dieu leur envoie le prophète Agée pour parler à tout le peuple. C'est pas facile d'être encouragé. C'est pas facile de rester encouragé souvent. Ça m'est arrivé cette semaine d'être plutôt découragé et j'ai cherché ce cours là où on peut le trouver, dans la Bible. Dieu a des paroles pleines d'encouragement pour chacun de nous. Et il y a des passages qui nous aident. Un de ces passages, c'est Agée. Quand on voit Dieu qui prend soin de son peuple, qui est dans la difficulté, même s'ils sont revenus d'exil, même si Dieu a fait pour eux de grandes choses, tout n'est pas rose et ils ont besoin de cet encouragement. Est-ce que vous avez remarqué que c'est difficile? Et peut-être que vous n'avez pas juste remarqué, vous avez expérimenté qu'il est difficile d'encourager quelqu'un. Il est plutôt facile de décourager quelqu'un. Heureusement, pour encourager, certaines personnes sont très douées pour trouver des bonnes paroles qui vont faire du bien, qui vont nourrir l'âme, qui vont redonner du courage, de la force. Et comme on est des êtres unis, âme et corps, souvent quand on est encouragé à l'intérieur, on a l'énergie aussi pour aller de l'avant avec juste notre corps, pour faire les choses qu'on a besoin. Quelle délivrance, n'est-ce pas, quand la parole vient à point nommé, qu'elle fait mouche, qu'elle fait vibrer une corde à l'intérieur quand le poids qui est sur nos épaules tombe. Parce qu'un frère ou une sœur en Christ a su, par la grâce de Dieu, nous aider à reprendre la route là où on l'avait arrêté. Alors j'aimerais bien, moi, progresser dans ce domaine. J'espère que c'est votre idée aussi. Ce serait bien qu'on le fasse tous, en fait. Qu'on puisse tous le faire les uns les autres. Et puis je pense aussi, en tant que papa, vis-à-vis de mes enfants, que c'est une chose importante aussi à faire. Alors que Dieu nous aide à faire ça. Et on va étudier donc un petit passage de Agée ce matin, qui a eu un ministère d'encouragement pour le peuple d'Israël. Peut-être ce serait même plus juste de préciser que, en fait, c'est Dieu lui-même qui, à travers Agée, vous savez, Dieu aime utiliser des moyens, et des fois c'est des moyens humains. Donc il a utilisé Agée, il lui a donné une parole qui était bonne pour le peuple d'Israël. La poignée d'Israélites revenus de l'exil babylonien, rassemblés autour de Jérusalem, et cette parole a réchauffé leur courage, elle a ranimé leur confiance, elle a impulsé une nouvelle dynamique en vue de la reconstruction du temple. Donc ça, c'est le contexte un peu, le grand contexte, et ils sont revenus, c'est super, mais le temple de Jérusalem, qui avait été détruit, est toujours en ruine. Et Dieu avait demandé qu'il soit reconstruit, et c'est toujours pas le cas. Dans le chapitre 1, vous pouvez voir que Zorobabel, donc c'est un, alors là, je ne sais pas s'il y a des familles qui cherchent un prénom, Zorobabel, pour les prochaines naissances, c'est pas mal, un prince de la lignée de David, donc un descendant du roi David, il y a Josué, le grand prêtre, et il y a tout le reste du peuple à Jérusalem qui est en train de reprendre le travail, en fait, pour la reconstruction du temple, après 15 ans d'inaction. Et le chapitre 1 de Agée, qu'on va pas lire ce matin, se situe donc en 520, au mois d'août 520 avant Jésus-Christ. Donc Agée a déjà dit une première parole, et par la grâce de Dieu, ça a eu un effet. Le peuple se remet en route après 15 ans d'inaction. Et voilà que... Le contexte de l'époque nous est aussi décrit. À cause de la nonchalance du peuple à l'égard du temple à reconstruire, Dieu avait envoyé la sécheresse. Les récoltes avaient été maigres, certains avaient faim et soif. Et en plus, il restait de ça, de toute façon, un gros paquet de gravats, de plus de 60 ans accumulés, qu'il fallait déblayer. Il y avait la menace des nations autour. Bref, c'était vraiment compliqué. Mais l'appel a fixé la priorité sur le projet de Dieu, plutôt que sur sa propre existence passagère dans ce monde, avait été entendu par les Israélites. Alors, je vous invite à lire éventuellement le chapitre 1, à entendre aussi cet appel. On va retrouver les mêmes personnes, donc Zorobabel, Josué et tout le peuple, dans notre passage d'aujourd'hui, qui se situe donc au chapitre 2, de verset 1 jusqu'à 9. Et on est à peu près 2 mois plus tard, c'est-à-dire au mois d'octobre, toujours en 520 avant Jésus-Christ. Alors je lis avec vous à partir du chapitre 2, verset 1. Le 21e jour du 7e mois, donc voilà, octobre 520 avant Jésus-Christ, la parole du Seigneur parvint par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Dis, je te prie, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur du Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée? Et comment la voyez-vous maintenant? Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas? Maintenant, sois fort, Zorobabel, déclaration du Seigneur. Sois fort, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre. Sois fort, peuple du pays tout entier. Déclaration du Seigneur. Et agissez, car je suis avec vous. Déclaration du Seigneur des armées. Avec la parole que je vous ai donnée, quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon souffle qui se tient au milieu de vous, n'ayez pas peur. Car ainsi parle le Seigneur des armées. Encore un peu, très peu, et je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Je ferai trembler toutes les nations. Les biens les plus précieux de toutes les nations viendront, et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur des armées. L'argent m'appartient, l'or m'appartient. Déclaration du Seigneur Yahweh des armées. La gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu, je mettrai la paix. Déclaration du Seigneur des armées. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons que toi, le Dieu infiniment grand et puissant, le Seigneur Dieu des armées célestes, toi qui commandes aux anges, toi qui commandes à toute la création, toi qui règnes suprêmement sur notre vie, que tu nous adresses la parole. C'est vraiment incroyable. Et tu le fais pour nous encourager, tu le fais pour nous porter en avant. Nous prions, Seigneur, que le moment que nous prenons ce matin pour méditer ce texte, cette parole que tu as pour nous aujourd'hui, nous produise cet effet, produise l'effet que tu as voulu, et qu'on reparte ici encouragé. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Il y a 3 choses que je voudrais partager avec vous ce matin. 3 choses que je pense, je vois dans le texte. Les versets 1 à 3, on est invité à renoncer au découragement et à persévérer dans les bonnes priorités. Et puis on est invité, alors écoutons l'encouragement de Dieu qui dit « Je suis avec vous », versets 4 et 5, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est un regard vers l'avenir. Dieu dans l'avenir va renverser la situation, mais dès aujourd'hui, il est déjà celui qui pourvoit pour nous. Renonçons au découragement et persévérons dans les bonnes priorités. On est en 520, donc avant Jésus-Christ. 18 ans plus tôt, donc ceux qui sont forts en maths, en 538, oui parce qu'on va en reculons, c'est avant Jésus-Christ, d'accord? Il y a environ 49 000 exilés qui reviennent de Babylonie pour s'installer en Judée. Cette terre qu'ils avaient dû quitter, emmenée de force par les armées de Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Donc ça fait, voilà, grosso modo 66 ans que le temple de Salomon a été détruit lors de la prise de Jérusalem par les troupes babyloniennes. Et il n'est toujours pas reconstruit. Les fondations ont été posées, mais à part ça, rien de plus. De retour dans leur patrie, les Juifs s'étaient pourtant vite mis à la tâche, et ils avaient fait donc justement d'abord l'autel pour rétablir le cycle des sacrifices. Et en 536, ils avaient posé les fondations du temple au même endroit où ils se trouvaient auparavant. Mais ils avaient été rapidement coupés dans leur élan par les Samaritains, donc les habitants de la région autour. On trouve toute cette histoire-là dans Esdras, Néhémie, et puis et donc dans 2 Rois 17-24 aussi. Et Zorobabel refuse avec raison l'offre de ces Samaritains pour aider à la reconstruction du temple, parce que tout en adorant Dieu, ils adoraient aussi des dieux étrangers, des faux dieux si vous voulez. Et donc ils faisaient une grande soupe avec l'enseignement biblique et puis les rituels de culte idolâtres. Et donc ces Samaritains qui ont, semble-t-il, autorité sur les Judéens à ce moment-là, Zorobabel n'est pas roi, vous avez remarqué les gouverneurs simplement de Juda, petite région du territoire d'Israël. Et ces Samaritains donc n'apprécient pas qu'un de leurs subalternes les reconduise comme ça. Et on lit dans Esdras 4, « Alors le peuple du pays, donc ces Samaritains et puis d'autres nations autour, se mit à décourager le peuple de Juda et à l'intimider pour l'empêcher de bâtir. Ils payèrent des conseillers contre eux pour faire échouer leur projet pendant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. » Ils ont même été chercher des avocats, ils ont essayé de faire des problèmes dans le sens juridique pour empêcher la reconstruction de Jérusalem et du Temple. Vous pouvez imaginer la déconvenue des Juifs. Ils s'est imaginé qu'avec le retour dans la terre promise, il y aurait la prospérité qui les attendait, qui reviendrait immédiatement sous la bénédiction divine. On imagine qu'ils peuvent être bien bien déçus. Et ils sont tellement déçus que finalement ils finissent par négliger la reconstruction du temple. Ce temple, c'était le signe visible de l'alliance conclue au Sinaï entre l'Éternel et Israël. Dieu avait fait sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage pour qu'il le rencontre et pour qu'il vive dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle était manifestée par ce temple en plein milieu de la capitale, de la grande cité de Jérusalem. Et si vous voulez, le temple renversé, détruit, représentait une sorte de rupture d'alliance, de cessation de la relation qui unissait Dieu avec son peuple. Alors, si on a ça en tête, reconstruire le temple, c'était le signe qu'il y a réconciliation, il y a de nouveau la présence divine avec le peuple d'Israël. Et aux yeux du prophète, inspiré par Dieu lui-même, c'était alors une obligation sacrée qui devait s'imposer à la conscience des Israélites, à tout le peuple. Alors, Agé est envoyé, il dit cette parole au chapitre 1, et voilà que les travaux reprennent, dans la ferveur suscitée par la première prophétie d'Agé. Et Dieu parle une deuxième fois maintenant par la bouche d'Agé pour poser une question. Vous avez remarqué, c'est au début de notre passage. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée ? Donc, il les appelle à regarder un petit peu à ceux qui ont connu cette époque où il y avait le temple de Jérusalem, il y a 60 ans d'écart. Peut-être les plus jeunes parmi eux, ils ont vu, ils ont des souvenirs encore de ce grand temple. En ayant en tête les dates des différents événements autour de l'exil, on se rend compte qu'ils ne sont sûrement pas très nombreux d'ailleurs. Mais il doit quand même y en avoir des personnes qui ont vu ça. Et en tout cas, même s'ils ne l'ont pas vu, ils en ont tous entendu parler par leurs parents, leurs grands-parents. On a fêté récemment le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que de moins en moins, il y a des survivants. Peut-être il n'en même reste plus, je n'ai pas regardé très dans le détail. Mais en tout cas, si ce n'est pas eux qui nous ont raconté, on sait quel moment terrible ça a été, toute cette période-là. Parce qu'on nous l'a raconté. On a des images qui nous sont encore disponibles. Alors, tout le peuple a une bonne connaissance de l'histoire de sa nation. Le livre des rois ou des chroniques donne une idée à nous aussi de la gloire du premier temple. On lit par exemple qu'il y avait plus de 20 tonnes d'or pur qui avaient été utilisées pour le construire, pour l'embellir. Les murs intérieurs étaient recouverts d'or. Même les gonds des portes, ils étaient en or. Puis là, devant eux, qu'est-ce qu'il y a ? Des fondations. Rien de très glorieux. surtout pas les moyens d'envisager de reconstruire à l'identique le temple de Salomon. Peut-être en taille, il sera grand, ils ont repris les mêmes mesures, mais il n'aura pas la splendeur d'autrefois avec tous les matériaux précieux qui avaient été utilisés. Alors, à quoi bon ? Les Israélites sont à nouveau rattrapés par le découragement. Peut-être qu'un certain nombre est en train de dire « ça ne marchera pas, enfin, c'est nul ». À quoi bon tous ces efforts ? On n'y arrivera pas ? Ou très nostalgique, c'était mieux avant, alors voilà, c'était le bon vieux temps, quoi. Fini, maintenant. Et leurs paroles décourageantes finissent par gagner de plus en plus de personnes. Mais Agé, poussé par Dieu, va au-devant de cet état d'esprit, et les questions qu'il pose, inspirées par Dieu, mettent au clair les sentiments de tous et désamorcent l'enchaînement en spirale vers ces raisonnements-là. Au passage, il parle de cette maison qui n'est pour le moment qu'un ensemble de fondations, comme directement en lien avec la maison précédente. Vous avez vu cette maison dans le passé. Donc pour lui, c'est la continuité. Et il pose la question, comment voyez-vous celle-ci maintenant? Comment est-ce qu'elle est dans cet état aujourd'hui? Pour lui, il s'agit d'une seule et même maison, un seul et même temple. Bien sûr, il a été détruit, mais c'est la même réalité derrière. Et on a vu déjà dans notre parcours de la Bible, qu'il y a cette même trajectoire entre les temples, le premier de Salomon, celui qui était reconstruit au moment de l'exil, qui est embelli fortement au temps d'Hérode, mais c'est derrière tout ça, cette ligne se poursuit jusqu'à Jésus. Et si vous vous rappelez, au début de Jean, Jésus fait mention qu'il est le nouveau temple, celui par lequel on va rencontrer Dieu. On a la promesse de la présence de Dieu pour toujours avec nous. C'est par lui, c'est par Jésus que Dieu manifeste sa présence dans nos vies et dans ce monde. Et on doit voir cette continuité, nous aussi. Peut-être que Agé est subtilement en train de rappeler aux Israélites qu'il vaut mieux ne pas s'arrêter à l'apparence, à ce qui frappe les yeux, car Dieu voit bien au-delà de ça. Et peut-être pour nous, on n'a plus un temple, on n'a plus un grand édifice magnifique sur lequel on pourrait porter nos regards et dire, parce que je vois ça m'encourage. Peut-être que ce prophète Agé, pour nous aussi, il nous interpelle en nous disant, mais Jésus n'est plus là parmi nous, il n'est pas présent en chair et en os comme il l'a été au temps des disciples. Mais ne nous arrêtons pas aux apparences, il est toujours présent et nous avons toujours le moyen de nous retrouver dans le temple, dans la présence même de Dieu, grâce à lui. On peut regarder, pour nous, les années qui ont précédé, on peut regarder le XVIe siècle, dire, c'était magnifique, la réforme, le temps de bouillonnement spirituel et toutes les conversions qui ont eu lieu, tout ce retour à l'évangile, c'est super. On peut regarder plus loin encore, regarder la Pentecôte, on peut regarder les récits des Actes, on peut dire, mais ça c'était la vérité, ça c'était vrai. Peut-être qu'on peut porter un regard découragé sur notre Église par rapport au passé. Mais l'auteur de... ça serait une fausse attente de vouloir recréer cette ambiance-là de Pentecôte ou des Actes. Ce serait une fausse idée de dire, puisqu'on ne voit pas ça littéralement devant nos yeux, de dire, on va vivoter la vie chrétienne en attendant peut-être que quelque chose de plus puissant arrive. Agé nous dit que la bonne priorité, c'est de chercher à nous édifier ensemble, maintenant, en Jésus-Christ, par la foi en sa parole. La bonne priorité, c'est de vivre dans la communion les uns avec les autres maintenant. La bonne priorité, c'est d'être témoin du Christ ensemble dans ce monde-ci et de manifester justement dans le monde, et particulièrement à Cavaillon, puisque c'est notre contexte, que Dieu reste toujours présent. Peut-être on ne le voit pas, mais il est là par Jésus-Christ. On est appelé à s'édifier comme des pierres vivantes, à s'ajouter à l'édifice spirituel qu'est le corps de Christ. Alors, si on renonce au découragement, on veut aussi écouter l'encouragement du Dieu de l'Alliance qui nous dit « Je suis avec vous » dans les versets 4 à 5. que peut-être on dit, ben oui, je sais, tout ça, j'ai bien compris le concept, je le maîtrise. Mais quand même, comment faire? C'est quand même dur, c'est quand même difficile de vivre ça. Alors, aux trois questions du verset 3, maintenant, succèdent trois encouragements. Il y en a un pour Zorobabel, un autre pour Josué, le grand prêtre de l'époque, et enfin un autre pour le reste du peuple. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, soyez forts, courageux et persévérez. Tout le monde est concerné, du plus grand au plus petit, du plus important au plus modeste. Personne ne peut se mettre à l'écart de cet encouragement. Il s'adresse à tous. Et Dieu engage le peuple à persévérer dans sa résolution de recommencer la construction du temple. Il veut voir les rescapés de l'exil, ceux qui ont eu part au sauvetage que Dieu a fait dans leur vie. Il veut les voir déterminés et à l'œuvre pour lui. Et Dieu donne plusieurs bonnes raisons aux Israélites de ne pas céder au découragement. La première, c'est que Dieu promet d'être présent en personne avec le peuple. Peu importe si pour le moment les temples, c'est que des fondations. Dieu ne s'attend pas à ce qu'il faut d'abord lui construire une maison pour qu'il vienne y habiter. Non, en fait, il n'a jamais cessé d'être présent avec le peuple. Les prophéties du début d'Ézéchiel sont là pour nous rappeler ça. Ézéchiel, il est loin, il est devant le fleuve en Babylonie, loin d'Israël. Et pourtant, Dieu lui montre qu'il est présent. Dieu lui parle. Dieu n'est pas circonscrit aux frontières d'Israël. Dieu n'est pas circonscrit aux quatre murs d'un temple. Dieu est présent en personne avec le peuple. Et il agit de la même manière qu'il a fait dans le passé avec Moïse, quand il a parlé à Moïse. Il a parlé à Moïse dans le buisson ardent. Il a assuré qu'il serait bien avec le peuple d'Israël. Après l'Exode et au moment de la rébellion du veau d'or dans le désert, Moïse a de nouveau demandé à Dieu, « Est-ce que tu vas être avec nous ?» Et Dieu a dit, « Oui, je serai là, parce que j'ai compassion. » De qui tu veux avoir compassion? Et il demande à Dieu, « Mais si tu ne viens pas avec nous, ça ne sert à rien qu'on avance plus loin. » Et Dieu lui dit, « Non, non, je suis là. Je vais être présent avec vous. » Vous pouvez lire ça dans Exode 33, versets 12 à 16. Josué reçoit aussi des encouragements similaires de la part de Dieu alors qu'il s'apprête à conquérir Canaan. Et ici, Agé rappelle l'Exode. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'Exode? C'était la délivrance de l'esclavage pour que le peuple puisse rencontrer Dieu. Eh bien, c'est le même schéma ici qui vient de se produire. Et les deux éléments sont comme superposés. Ils viennent de quitter l'esclavage de la Babylonie pour retourner dans le peuple. Dans le pays choisi par Dieu. C'est Cyrus qui a relâché les exilés pour qu'ils puissent revenir à Jérusalem. Même schéma pour nous, encore aujourd'hui. Dans l'esclavage de notre péché, le Seigneur Jésus est venu, il a ouvert un nouveau chemin pour nous, pour qu'on puisse accéder à la présence même de Dieu, pour qu'on puisse célébrer sa gloire, pour qu'on puisse se réjouir d'être devant lui et d'avoir la certitude de son affection pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dit Romains 8. C'est ce qu'on va bientôt fêter, n'est-ce pas? Au moment de Noël. Vous connaissez, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Dieu avec nous. On va bientôt prendre du temps pour réfléchir à cette réalité-là. Le Dieu Tout-Puissant, Dieu le Fils, s'est incarné. Il est venu dans notre réalité pour qu'on soit sûr et certain de ne pas être seul. Donc, Dieu promet d'être présent en personne. Dieu promet d'être présent avec sa parole, de nous rappeler les bonnes paroles qu'il nous a données. Dieu promet de nous dire ce qui compte pour nous dans notre vie. Dieu est un Dieu fidèle qui ne change pas. Il y a de nombreux échos à l'Ancien Testament dans le passage qu'on est en train de lire ce matin. Je ne vais pas tout développer, mais il est juste en train de dire, voilà, tout ce que j'ai promis précédemment, je vais le faire. Et si Dieu a pu dire ça au temps d'Agé, il le dit encore à nous aujourd'hui. Et on a encore plus de raisons de le croire. Parce que l'accomplissement des promesses a eu lieu en Jésus. Vous avez remarqué avec quelle insistance Agé affirme que ce n'est pas n'importe qui parle. Dans le passage, j'ai compté 10 mentions de Dieu qui parle pour 9 versets. Et vous avez sans doute entendu ce refrain. Déclaration du Seigneur des armées qui revient Constamment. Tous les deux mots, il n'a même pas fini sa phrase qui dit « Attention, je vous rappelle, celui qui est en train de vous dire ça, c'est le Seigneur des armées. » Il y a trois fois cette mention-là, juste dans le verset 4. 20 fois en 38 versets pour tout le livre d'Agé. Donc, Dieu dit qu'il est présent avec nous. Et ce n'est pas n'importe qui dit ça. C'est justement Dieu qui dit ça. Et donc, ça a du poids pour nous. Un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui est « je suis », qui se suffit à lui-même, qui n'est pas dérangé, bousculé par autre chose. Un Dieu qui est un Dieu personnel. Dans l'hébreu, on lit le fameux tétragramme Yahweh. C'est le nom personnel de Dieu, son prénom presque, si on peut dire. Un Dieu qui est Seigneur des armées, souverain de tout ce qui existe, aussi bien sur la terre que dans le ciel. Enfin, Dieu assure sa présence par sa parole et avec son esprit. Si on entend une parole, ça reste encore extérieur à nous, mais si cette parole rentre par notre oreille, elle descend sur notre cœur et elle s'installe dans notre cœur et elle motive notre manière de vivre, alors on est vraiment en communion, n'est-ce pas, avec celui qui nous parle. Et ça, on a besoin du Saint-Esprit. Dieu n'est pas un Dieu lointain, totalement autre, souverain, puissant, extraordinaire, au-dessus de son peuple, il est aussi celui qui est véritablement présent et au plus près de son peuple, jusque à aller dans notre cœur. Nous pouvons nous aussi compter sur la présence de Dieu, avec sa parole, la parole de son alliance scellée par Jésus-Christ, avec la certitude de son esprit. Il l'a promis, je répandrai sur vous mon esprit. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est pas, puisqu'il n'est plus là physiquement, comment est-ce qu'il est encore présent? Comment est-ce que cette parole peut être vraie? Sinon, par le fait que l'Esprit de Dieu témoigne à nos cœurs qu'en effet, le Christ intercède pour nous auprès de Dieu. Qu'en effet, le Christ nous donne les ressources dont on a besoin pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Comment est-ce qu'on peut être sûr de cette promesse sinon que par l'Esprit de Dieu? Et c'est ce que Jésus a dit. Au chapitre 14 du livre de l'évangile de Jean. « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelin. » Comme au temps d'Agé, il n'y a pas lieu pour nous d'avoir peur. La peur, elle est puissante pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu, mais en Christ, il n'est plus besoin d'avoir peur. L'ordre divin d'être fort nous est pas c'est pas juste une parole un peu choc pour essayer de nous faire réagir, mais c'est une parole qui s'accomplira parce que Dieu lui-même est avec nous, parce que Dieu va nous donner toutes les ressources. Et on est encouragé par Éphésiens chapitre 6 verset 10: puisez votre force dans le Seigneur, pas en nous-mêmes, pas en retroussant juste les manches, mais puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ou 1 Corinthiens 16, soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Mais tout ça nous vient par notre relation avec Jésus lui-même. Notre priorité alors, c'est de chercher Dieu en tout et de chercher à puiser nos forces en lui. Mais sa promesse, c'est qu'il veut nous donner tout ça. Renonçons au découragement, écoutons l'encouragement de Dieu qui dit « Je suis avec vous ». Et regardons aussi que notre présent et notre avenir sont sécurisés. Dans l'avenir, Dieu va renverser la situation. Mais dès aujourd'hui, c'est lui qui pourvoit. Agé délivre le deuxième oracle un jour de fête, le dernier jour de la fête des cabanes, alors que le peuple se trouve rassemblé aux alentours du chantier pour le culte lié à cette célébration. Alors, les personnes les plus âgées qui ont connu le temple de Salomon avant sa destruction déplorent l'état actuel de l'édifice. Mais Agé passe outre ses pleurs et il encourage les bâtisseurs à prendre courage en leur promettant donc la présence et l'aide divine. Et il leur annonce que le temple qu'ils sont en train de reconstruire connaîtra une gloire plus grande encore que celle du précédent. Chapitre 2, versets 8 et 9. De même, et même qu'un jour, les richesses de toutes les nations influeront dans ce temple. Cette prophétie, elle est diamétralement opposée aux circonstances déprimantes dans lesquelles se trouvent les Israélites. Ils habitent un tout petit lopin de terre, ils sont sous la domination des Perses, leur qualité de vie, elle est déplorable, ils sont menacés par leurs voisins, mais selon Agée et tous les prophètes d'ailleurs, l'histoire est en marche vers une nouvelle ère, le jour de l'Éternel, qui débutera par un chamboulement du ciel et de la terre, dans lequel Dieu va établir son royaume une bonne fois pour toutes. Et pour encourager ses compatriotes, Agée ne se contente pas simplement de faire des promesses à court terme, mais il brosse un tableau du plan de Dieu, de sa finalité, qui est l'établissement de son règne sur la terre. Une nouvelle création sur laquelle il domine. Les fondations sont petites, mais le résultat, c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre dans laquelle Dieu demeure au milieu de son peuple. C'est quelque chose d'absolument grandiose. La reconstruction de ce temple au temps d'Agée n'est qu'un prélude, qu'une étape vers cet objectif lointain et grandiose. Ça peut paraître une action modeste pour le moment, pour les Israélites au temps d'Agée. Mais elle est nécessaire à la réalisation de ce projet divin. Et si elle paraît bien modeste et peut-être futile aux yeux de certains, elle a quand même un sens. Parce qu'elle va dans une direction précise, parce qu'elle est en vue d'un accomplissement encore plus grand que Dieu lui-même va faire advenir. Alors, Dieu met à contribution son peuple par la reconstruction du temple pour arriver à ses grands objectifs. En reconstruisant le temple, les Israélites sont appelés à contribuer en leur temps à la réalisation du plan de Dieu pour des âges qui dépassent même le temps de leur vie. C'est la même chose pour nous. En nous investissant dans notre vie, les uns avec les autres, en formant ici à Cavaillon le corps de Christ, en travaillant ensemble à faire connaître la gloire du Seigneur, Dieu des armées tout-puissant, qui dit qu'il est présent avec nous. Et qui ne fait pas que le dire, qui nous a donné son esprit pour le vivre. Dieu nous associe, nous met à contribution dans notre temps pour la réalisation d'un plan qui dépasse même notre propre vie. Un jour, on va voir de nos yeux cette réalisation. Aujourd'hui, ça semble des petites fondations bien minables. Mais Dieu nous dit qu'il est en train de faire ce qu'il a promis de faire, quoi qu'il arrive. L'or est à moi. On n'a pas de moyens. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Il ne nous demande pas de créer des moyens là où on n'en a pas. L'argent m'appartient, dit Dieu. Et donc, il a des ressources en réserve qui sont incroyables pour nous, pour son Église. Est-ce qu'on veut aller puiser là, dans ce que Dieu a mis en réserve pour nous? Est-ce qu'on veut chercher quelle est la manière dont Dieu veut nous mettre à contribution dans notre temps pour son plan éternel de recréation? L'annonce d'un nouveau chamboulement du ciel et de la terre débouchant sur cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, donc qu'on trouve au verset 6 par exemple, est interprétée par Pierre dans le livre des Actes au chapitre 2. Dans son discours à la Pentecôte, comme ayant déjà commencé avec l'instauration de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ce temps est déjà là. On vit déjà ce temps-là. La gloire, dit le verset 9, la gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu, je mettrai la paix. Déclaration du Seigneur des armées. C'est comme ça que Agée termine cette prophétie au mois d'octobre 520 avant Jésus-Christ. Juste pour conclure et pour rassembler quelques idées avant qu'on On continue notre célébration ensemble. Yahweh, Dieu qui parle ici à Agé, Dieu qui est présent dans cette pièce par son esprit, qui nous parle aussi à nous, est le maître de l'histoire. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il est à l'œuvre même derrière les actes des nations païennes pour les diriger comme il veut pour le bien de son peuple. Il est et il veut être aussi à l'œuvre à l'intérieur de son propre peuple, le mettre à contribution pour la réalisation de son projet. Non pas en utilisant ou en dépassant la rébellion, mais au contraire en ayant des serviteurs, des servants, des sacrificateurs, des rois, prêtres qui, unis ensemble, annoncent la grandeur de ces hauts faits, de ces bienfaits pour nous. Son appel depuis Agé, j'espère, résonne aussi pour nous ce matin. Est-ce qu'on est tenté par le découragement ou un esprit un peu pessimiste? Bah, de toute façon, ce qu'on va faire, ça sera jamais à la hauteur. Ce qu'on a déjà fait, c'est pas très glorieux, quelques fondations. Peut-être certains se disent, attendons que quelque chose se passe de manière visible et on verra si ça vaut le coup de s'engager. Ouais, si c'est notre cas ce matin, le Dieu éternel nous dit non, soyez forts, agissez, parce que je suis avec vous. On est invité à se placer dans la trajectoire de la délivrance que Dieu a opérée pour nous. Dieu nous a délivrés des griffes de Satan, des pièges du péché dans lesquels nous nous étions jetés, des ténèbres dans lesquelles on s'était retrouvés en cherchant l'autonomie par rapport à notre Créateur. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans la lumière. Nous sommes éclairés par sa présence. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir lui rendre gloire, pour pouvoir trouver notre joie alors que nous reconstruisons ou construisons les premières pierres d'un édifice qui dépasse de loin notre vie. Un jour, Dieu va renverser l'ordre actuel des choses de cet univers pour juger les vivants et les morts et créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et si aujourd'hui on a du mal, regardons aussi à ce que Dieu a promis. C'est sûr et certain, ça va arriver. Et voilà aussi de quoi soutenir notre espérance et notre joie alors que nous sommes en route vers cette Jérusalem céleste. Je voudrais prier avec vous pour terminer. Notre Dieu, merci pour ces paroles d'Agé. Merci parce que tu prends soin de ton peuple à chaque instant. Merci parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, en Jésus-Christ. Merci parce que nous n'avons pas à douter de ta présence. Et merci pour le don du Saint-Esprit. Merci parce que nous avons, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour marcher à ta suite. Nous prions, Seigneur, que tu tournes nos regards vers les choses d'en haut, vers Jésus, assis à la droite de ton trône céleste. En lui, par lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour, Seigneur, déclarer ta gloire au monde entier. Ici même, à Cavaillon, même quand nous sommes un petit nombre, même quand les choses sont difficiles, Seigneur, nous prions que tu viennes encore faire résonner ces paroles d'encouragement dans nos cœurs, aux uns et aux autres. Et peut-être qu'il y a aussi des domaines dans notre vie où on a besoin de savoir que tu es avec nous et on peut être fort, courageux dans notre lutte particulière que les uns et les autres peuvent traverser. Seigneur, viens s'il te plaît, autant nous reconstruire intérieurement que faire que nous, tous ensemble, les uns avec les autres, nous puissions nous édifier comme un temple qui te rend la gloire, qui honore, qui manifeste ta présence au monde. Seigneur, nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. Merci.